Bon, écoutez, je vous propose de faire le point, histoire qu'on avance quand même un petit peu. Voilà, sur la première question, du coup, il y avait deux questions dans cette question. Donc la première question, comment le monde reconnaît une personne bénie? Voilà, qu'est-ce que vous avez pu mettre? Est-ce que vous avez des réponses? Il y a plusieurs réponses, hein.
Avant de commencer, les personnes qui souhaitent intervenir lèvent le bras le temps que je me déplace vers elles pour qu'elles puissent prendre la parole avec le micro. Merci.
Marlène et Benoît.
Alors nous, on a trouvé que c'était, selon le monde, c'est quelqu'un qui avait une vie sans problème. Il avait de l'argent, il avait de la santé, il avait une réputation, il avait une vie facile, confortable. Il avait de la liberté aussi. Voilà ce genre de choses.
Ouais. Ok, c'est très bien. C'est une bonne réponse.
Donc nous avons collégialement réfléchi ensemble et pour finalement proposer une personne bénie et quelqu'un qui est reconnu extérieurement, socialement, financièrement, matériellement, être en bonne santé, c'est un petit peu ce que disait Marlène, comme né sous une bonne étoile, tout lui réussit.
Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres ajouts à faire? Vous avez trouvé à peu près ça? Ouais, groupe au fond.
Ben, nous, on a mis ensemble que, selon le monde, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a de la chance. Parce qu'ils utilisent beaucoup, il a la chance, ouais. Donc voilà. En gros, c'est ce qu'on a dit.
Ouais, ça peut en faire partie.
Non, c'est pareil, moi je rajoutais aussi, quand justement les gens ont la chance, ils se disent c'est grâce à la vie, c'est grâce à l'univers, mais ils mettent pas, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça, quoi.
Ouais. Ok. Bon, c'est bien, vous avez pu répondre. Et du coup, la deuxième. En quoi cette définition, pour nous, elle influence aussi la manière dont nous, chrétiens, on peut voir la bénédiction? Du coup, est-ce que déjà elle est juste? Parce que tout ce qui vient du monde n'est pas forcément faux, hein, encore une fois. Hein. Ou est-ce qu'il y a de la nuance? Est-ce qu'il y a des choses à prendre ou pas? En quoi ça influence pour nous, chrétiens, notre raisonnement?
Bon, en fait, en tant que chrétiens, nous, on a vu ça à l'envers. On s'est dit que la bénédiction n'est pas forcément positive. Tel que le monde pourrait le voir, hein, c'est-à-dire qu'on est aussi face à des épreuves, étant béni, et que ces épreuves vont nous amener à grandir, mais on va peut-être passer par la souffrance avant de pouvoir grandir.
Ok, et du coup, est-ce que ça, c'est une bénédiction?
Oui, complètement, oui. Oui.
D'accord. Non, c'est vrai, Xavier. Autre chose? Alors, je rentre en dialogue avec vous. Est-ce que, du coup, un chrétien qui a à l'aise financièrement, qui a la santé, est-ce que, du coup, on peut pas dire qu'il est béni? Parce que c'est une bonne réponse, hein, que je fais, Xavier. Mais du coup, je prends à l'envers. On vient de donner des réponses. Est-ce que, pour nous, chrétiens, si on dit ça, on se dit, bah non, lui, il est pas béni, c'est juste normal, et... ou on peut dire qu'il est béni? Alors tu veux peut-être parler à Dominique? Il y a Dominique.
Si vous levez pas la main, je peux pas vous bénir. Hein. Si vous levez pas la main, je peux pas.
Oui, c'est Dieu qui bénit. Il bénit aussi bien les riches que les pauvres.
D'accord.
Et même si on n'est pas chrétien et que on a des richesses à plus savoir quoi en faire. C'est Dieu qui bénit, après, à savoir ce qu'il fait de tout ça.
Ok, donc ça veut dire, parce que là, on cherche à déterminer c'est quoi la définition d'être béni. Donc là, en fait, on rentre dans la définition du monde, alors ça peut correspondre pour nous, c'est ce que vous me dites là. C'est une question, hein. je suis pas en train de... On a défini ce que c'est pour le monde, vous avez raison, c'est ça que pour le monde, et ça veut pas dire forcément que pour nous c'est mauvais, mais du coup, est-ce que pour nous...
Alors,
ça rentre en ligne de compte.
Nous, ce qu'on avait rajouté, c'est-à-dire que selon le monde, on a vu que la bénédiction, selon le monde, ne pouvait être que quelque chose de positif. Et donc, du coup, on est parti plus loin en lisant le psaume et en faisant le parallèle avec Job. Ouais. Et on s'est dit, la bénédiction pour nous en tant que chrétiens, ça peut être positif comme ça peut être une épreuve. Mmh. Et que le fait que le monde pense qu'une bénédiction ne peut être que positive, ça peut nous influencer dans le sens où on peut se poser des questions dans l'épreuve en se disant, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela? Donc voilà, comme Job. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé, voilà, c'est ce ouais. qu'on s'est dit ensemble.
Est-ce que vous avez compris ce que vient de dire notre sœur Virginie? C'est juste, hein. C'est juste, voilà, je préfère dire, c'est juste. Bon, d'autres réflexions peut-être?
Oui, il y a un autre problème qui se pose justement au niveau de la bénédiction, parce que quelque part, comme on l'a si bien dit, Dieu bénit les méchants, aussi bien les méchants que le bon. Mais de l'autre côté aussi, on a certains qui peut-être, je ne dirais pas peut-être, sûrement, tirent leur apparente bénédiction du fait qu'ils se soient soumis aux démons, parce que les démons aussi peuvent enrichir, par exemple. Donc du coup, devant nous, on aura une personne peut-être qui est bénie de Dieu, et par les biens matériels, et de l'autre côté, on peut aussi avoir un autre qui est béni, mais par le démon.
Ouais.
Comment faire la différence là? Ce sera là tout le problème.
Tu reposes une question, Félix. Hein. Mais c'est une bonne question. J'arrive.
Merci. Nous toujours collégialement, je lis tout simplement. Donc l'influence, comme si le fait d'être chrétien supposait que l'on soit béni de cette manière. Certains chrétiens pourraient confondre Dieu avec un Père Noël ou un distributeur de bénédictions.
Ok, et est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que bibliquement, est-ce que c'est mauvais finalement? Thomas vient de dire non. Alors allez, je synthétise ce que vous m'avez dit. Donc la bénédiction selon le monde, c'est la richesse, la santé, avoir des enfants, voilà, toutes sortes de choses positives. Pour nous chrétiens, est-ce que c'est la même définition qu'on peut prendre? C'est ça la question. Est-ce que c'est la même définition qu'on peut prendre? Alors vous avez dit qu'il y a les épreuves, Virginie a dit que finalement il n'y a pas que ça. Du coup c'est quoi alors? Si c'est pas que ça, c'est quoi le ça? Pour nous chrétiens, c'est quoi la différence? Oui, Marlène. N'hésitez pas les autres. Hein.
C'est nous on a pensé que dans le monde c'est les circonstances extérieures qui comptent. Qui dit si on est béni. Et pour le chrétien, nous savons par la Bible et par notre propre vie qu'il y a des bons moments et des mauvais moments et des mauvais moments par répétition et des épreuves. Mais pour le chrétien, c'est que ce soit facile ou pas facile, j'ai la paix de Jésus, je suis en connexion, je suis bien équilibré et j'arrive à faire face parce que, mais ça, on n'avait pas discuté ici, mais l'épître de Jacques, il dit bien, considérez comme une joie complète, même pas semi-complète, une joie complète de toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer. Oui. Et donc, si on a intégré ça, on peut être à l'hôpital, on peut avoir un gros clash, etc. On est béni quand même, parce qu'on s'accroche au basket du Seigneur, quoi qu'il arrive.
Alors, c'est juste ça, mais du coup, on est béni quand même, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est lié forcément là au matériel, à la santé, à tout ça? Oui, Juliette.
Tout ça, je suis d'accord, ça peut être intérieur, mais partout dans la Bible, quand il s'agit de bénédiction, je vois des choses très concrètes, matérielles, enfin, une longue vie, une grande famille, le bien-être aussi physique, ça existe. Et en nombre, quand le peuple est béni, en nombre 6, alors, il n'y a pas trop de définition, mais ça inclut la paix, ouais. Le fait que Dieu sourit. Enfin, je pense que c'est quand même aussi ouais. Toutes les autres choses.
Ouais, tout à fait. Allez, je peux faire durer le. Vous avez raison là sur tout ce que vous avez dit. Pour répondre un petit peu à la question, j'ai mis le psaume 73. Le psaume 73, si vous l'avez vu là un peu entièrement. Ah, oui, vas-y. Allez, dernière et puis.
On disait aussi que c'est marqué dans la Bible, c'est pas par nos paroles que nous sommes bénis, c'est par nos actes. Et à partir du moment, c'est tout notre comportement et notre être, quand on aide les autres, quand on est accueillant, quand on partage, c'est notre attitude qui va en accord avec la parole de Dieu.
Ouais, c'est vrai. Mais on va creuser un peu plus. Hein. Alors, il y aura une autre question sur c'est quoi la définition chrétienne, parce que là, vous m'avez donné... On tourne en rond, en fait. C'est juste hein, tout ce que vous m'avez dit, mais du coup, ça définit pas... Je sais pas, moi, j'envoie des mails où des fois, on se dit « sois béni ». Et voilà, je vais être clair là-dessus ce matin. Pour le monde, du coup, c'est très matériel. On va enchaîner. Je vais avancer parce qu'il y a d'autres questions après, puis je vous laisserai parler. Et du coup, c'est très ce que vous avez dit. Donc, ça peut être l'argent, la santé, plein de choses. Et quelque part, c'est ce que Virginie t'a très bien dit. Pour nous, chrétiens, ça en fait partie. On peut pas dire que c'est faux. On prend d'exemple dans toute la Bible. Hein. Dieu, comme tu dis, Juliette, est très concret dans les bénédictions qu'il accorde. Mais... c'est pas ça la bénédiction selon Dieu. Ça en fait partie, c'est un des éléments, mais c'est pas ça la bénédiction selon Dieu. Parce qu'il y a d'autres hommes, et on verra, c'est l'une des dernières questions que je mets, hein, qui vont pas avoir tout ça et que Dieu va appeler béni. Et où ça nous choque hein, d'ailleurs. Parce que finalement, il n'y a pas un lien, et l'influence finalement pour nous, chrétiens, c'est le matériel. C'est de se dire finalement, quand je vis l'épreuve, alors vous avez tous bien dit, hein, quand je vis l'épreuve du coup, on est béni, Xavier a bien donné la définition, on est béni aussi. Mais est-ce que vraiment, concrètement, quand on vit l'épreuve, on se dit béni comme si on ne vivait pas l'épreuve? Ça c'est dur. Et bien souvent, on dit qu'on n'est pas béni, mais c'est passager. Parce qu'on espère autre chose, parce que notre définition de la bénédiction n'est pas la vraie. Et que du coup, il y a la théorie que nous avons, mais la vraie pratique que nous vivons, elle est pas cela. Moi, j'ai jamais croisé de personne, et moi, je me mets dedans. Hein. Quand il vit l'épreuve, alors ça arrive de temps en temps, mais qui va dire « Non, mais vous inquiétez pas, je suis béni. » Parce que quelque part, l'influence, la définition du monde, quelque part, nous gagne. Pour le monde, c'est uniquement le matériel, voilà, tout le côté positif qu'on peut avoir. Pour nous, chrétiens, ça peut en faire partie, mais c'est loin d'être cela. Dieu ne se limite pas qu'à cela, et d'ailleurs c'est pas ça, c'est autre chose où ça peut découler. Et du coup c'est pour ça ce matin on va enchaîner, et je vous propose du coup deux autres questions, et pour pouvoir un petit peu avancer, dans le psaume 73, juste pour revenir dessus, 73 versets 3 à 5, c'est le psalmiste qui va dire ceci, « J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, et j'ai vu que tout leur réussit. J'ai envié ces insolents, bon, il est assez dur hein, dans ses propos, ces gens-là n'ont jamais d'ennui, ils sont gros et gras, ils ne connaissent pas la peine des hommes, les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. » Et le psalmiste, lui, est chrétien, et il voit les méchants qui prospèrent. Et quelque part, sa définition de la bénédiction, finalement, elle est comme elle peut être pour nous, très matérielle, mais Dieu va le reprendre d'ailleurs par la suite, mais voilà. Est-ce que ça va ? Donc pour le monde, du coup, c'est tout ce qui est matériel, et l'influence pour nous, quelque part, c'est de se limiter, comme le monde, à tout ce qui est matériel, alors que ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter, bien au contraire, quand Dieu bénit, il peut aussi le faire par cela, mais ce n'est pas la définition pure de la bénédiction selon Dieu. Je vous propose de continuer sur deux autres questions. Voilà, deux autres questions. Donc, selon Jésus, peut-on être réellement béni tout en vivant le manque, l'épreuve ou l'opposition? J'ai mis Matthieu 5, versets 3 à 11. Et troisième question, pourquoi cette vision de la bénédiction peut-elle troubler le croyant? Allez, je vous laisse 15 minutes et puis on fait le point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a un groupe qui a besoin encore un peu de temps? Bon, bah parfait. Bah écoutez, je vous propose de faire le point. Du coup, donc c'est la deuxième question. Selon Jésus, peut-on être réellement béni tout en vivant le manque, l'épreuve ou l'opposition? Donc j'ai mis Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, versets 3 à 11. Et donc Matthieu chapitre 5, versets 3 à 11, je vais vous lire. Donc c'est Jésus qui parle. Et c'est les béatitudes, c'est ce qu'on appelle ici une des prédications de Jésus dans les évangiles, qui va dire ceci. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Voilà le texte qui définit un petit peu ici la bénédiction et quelque chose qui ressort dans ce texte. Et finalement, la question, c'est, selon Jésus, peut-on être réellement béni tout en vivant le manque, l'épreuve ou l'opposition? Alors, vous avez un petit peu répondu, mais on va essayer de passer vite, du coup. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut vivre, peut être béni tout en vivant le manque? Oui, on l'a un peu dit, c'est Xavier qui l'a précisé, l'épreuve fait partie ici de la vie. Et du coup, troisième question, pourquoi cette vision de la bénédiction peut-elle troubler le croyant fidèle? Jésus déclare ici que ceux qui sont heureux et bénis, ce sont les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qu'on insulte. Oui, Alice. Alors,
un élément de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde confortable. Et du coup, on a parfois du monde. Bah, je dis là en Occident. Et du coup, on a du mal à se détacher justement de nos biens, de nos familles aussi. Parce que quand on est persécuté et qu'on a un enfant devant soi et qu'on nous dit si tu me suis pas, je tue ton fils ou ta fille, comment on réagit nous, hein? Clair, hein. Et il faudrait pouvoir être détaché de tout le matériel qui nous entoure. Hein.
Ok. Ouais, c'est vrai. Autre chose?
Ouais. Bah, je pense qu'on peut. Être troublé parce qu'on peut se comparer effectivement avec les cas de pays plus compliqués, ou aussi on peut prendre certaines choses un peu trop de manière concrète, matérielle, alors que il y a quelque chose en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est je pense que on peut le vivre à différents niveaux, il y a différentes nuances, mais en tout cas d'être dans cette posture, de réaliser qu'on est. Enfin, ça nous encourage en tout cas à rester dans l'humilité, de dire bah oui, en fait, on est simple, on n'a pas toutes les réponses. On peut effectivement être chrétien et finalement vivre toutes ces choses-là, mais c'est pas archi clair dans ma tête, mais en tout cas, il y a cette notion de moi à différents moments, je me suis dit mais si c'est ça être chrétien, c'est vraiment un énorme défi en fait. De vivre ça et d'accepter que finalement cette humilité de dire bah oui en fait on va finalement de voir que les larmes, la fin de justice, tout ça, bah c'est selon le cœur de Dieu, mais même si on pourrait nous dire voilà être chrétien, viens, deviens chrétien, ça va être, ta vie va être lumineuse, merveilleuse, alors qu'en fait finalement ça montre un peu le coût, le prix à payer.
Ouais.
Enfin, je sais pas si je suis très
clair. Ouais, si, tu t'éclaires un petit peu, ouais. Xavier? Ou plutôt elle? Ouais, non, Elsa après. Xavier? Ouais. Non, Elsa, tu pourras parler, mais après. Vas-y, Xavier. Oui, il y a Marlène avant, d'accord, Marlène. Vas-y.
On avait trouvé aussi autre chose, c'est que dans le monde, on veut la bénédiction tout de suite, et donc nous aimerions aussi, mais finalement, la parole dit, ben, c'est un petit peu plus tard, voire là-haut, parce qu'il n'y aura plus de larmes là-haut, on aura la récompense là-haut, et tout le bonheur, selon le monde, c'est pas pour ici. Après, on a trouvé aussi que c'était pas le même niveau. C'est-à-dire quand ici, il parle ceux qui ont faim, c'est pas faim dans mon estomac, c'est faim de justice. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc Jésus, il est plus élevé dans ses pensées. Ouais, et puis après, le bonheur ou la bénédiction, c'est très lié à notre identité. Il y a rien sans l'identité en Jésus. Nous sommes rachetés, nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes disciples de Jésus, et pour ceux qui ont avancé, aussi des bébés guerriers dans l'esprit. Et donc, si on a intégré ça, quoi qu'il arrive, on est béni parce qu'on est en contact là-haut, et puis ça coule.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup ta réponse, Marlène. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Tout à fait juste.
J'avais un verset là qui me venait, c'est « là où est ton cœur, là sera ton trésor
ouais. ».
Et ça me faisait penser à ça. Peut-être que l'idée de heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, c'est aussi le fait de revenir à la source. Enfin, une personne qui pleure, c'est peut-être aussi une personne qui, d'un coup, a un cœur un peu brisé. Enfin, c'est l'image que ça me donne. Un cœur qui revient vers Dieu. Et donc, revenir à la définition de la bénédiction qui, en fait, l'image de la croix, enfin revenir vers là-haut, revenir à une relation avec Dieu, la présence de Dieu à chaque instant. Après, c'est facile à dire, mais quand on traverse des épreuves, j'imagine que ça doit être horrible, enfin voilà, compliqué à appliquer. Mais en fait, une bénédiction, c'est vraiment une personne qui se redonne à Dieu avec des pleurs, des larmes, un cœur brisé, quoi. Ouais. Je vois ça comme ça.
Ouais, c'est vrai, c'est ça. Alors, juste peut-être un point, parce qu'on en a parlé vendredi sur ce verset. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Donc, en fait, parce qu'on en a parlé vendredi. Donc, en fait, c'est ce que tu dis, tu vois, tu t'as pris ce verset là pour. Ça rentre spirituellement, mais ce texte-là, il parle pas de ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on parle de matériel. En fait, ce texte-là, il parle d'argent. Ce texte-là, il parle que là où tu mets ton argent. Ton trésor, ici c'est l'argent, c'est le terme ici biblique. Hein. La traduction, c'est pas, il peut être traduit par là où tu mets ton argent, là sera ton cœur. Et j'ai donné l'exemple vendredi, parce qu'on a eu un cours sur les bases de la foi, où finalement j'ai pris si vous avez des actions en bourse et vous placez votre argent, vous soucierez de l'action en cours. Si vous n'avez pas d'argent là-dessus, vous vous soucierez pas, vous vous levez le matin et voilà. Et Jésus dit ici, en fait, la Bible parle ici d'un contexte. D'un principe hein, qui est clair dans la vie des hommes. Roger l'avait un peu synthétisé, mais ça parle d'argent. Ça veut dire que si le chrétien, quand son cœur est touché, et je vais reprendre du coup ce que disait Roger, quand son cœur est touché, son portefeuille est aussi touché. L'un va sans l'autre et on ne peut pas dissocier les deux. Et d'ailleurs, c'est une des idoles du Nouveau Testament, c'est l'argent. Voilà, je fais une parenthèse, hein, que Jésus va combattre. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il dit cela. Et du coup, même si spirituellement, je vois ce que tu dis, ça tire la route. Hein. Mais ce verset-là, du coup, parle d'argent, il parle d'autre chose. Il parle finalement, c'est Calvin qui va dire, Calvin, le réformateur, qui va dire, moi, si on me présente un chrétien, je vais lui dire, où est-ce qu'il met son argent? Où est-ce qu'il met son argent? Là sera son cœur, là, finalement, est son Dieu. Et là, se souciera finalement de, bah, c'est là qu'il investit, c'est là qu'il se soucie. Alors pour nous, voilà, ça pourrait faire une prédication entière, hein, ce sujet. Mais voilà, c'est juste pour remettre un peu le texte, tu vois. Mais c'est juste, hein, ce que tu dis, c'est très juste. Xavier, peut-être, tu voulais réagir ?
Oui, par rapport au contexte, en fait, Jésus s'est entouré de ses apôtres. Ouais. Il lui a été reproché d'ailleurs que ses apôtres étaient des gens de mauvaise vie, on va dire. Donc ils étaient dans le manque, ils étaient dans l'épreuve. Et Jésus les a bénis malgré tout. Malgré justement qu'ils étaient de bivouac en bivouac, qu'ils devaient chercher de l'argent pour manger, enfin ils ont vraiment vécu dans une simplicité. Alors qu'on aurait pu croire que Jésus allait tout leur donner, mais en fait Jésus leur a montré aussi le chemin de l'épreuve. Ouais. Voilà.
Ouais, tout à fait. Donc, je prends un exemple. Vous pourrez peut-être répondre à cette question. Je prends l'exemple de Abraham. Abraham, le texte biblique est très clair. Le fait qu'il ait un enfant va être un signe de bénédiction. Pourtant, Abraham, il fait partie des héros de la foi et il va être béni. Il va être appelé béni par Dieu avant même d'avoir des enfants. Et c'est pas en promesse d'avoir des enfants. C'est que Abraham vit la bénédiction de Dieu, qu'il ait des enfants ou pas. La bénédiction, le fait que d'avoir Isaac après une descendance nombreuse va faire partie d'un des marqueurs de bénédiction, mais en fait il est béni au-delà de cela. Il n'aurait pas eu d'enfants, il aurait été tout aussi béni. C'est-à-dire que c'est pas ça qui fait tout d'un coup que Abraham devient béni. C'est pas le matériel, ou en tout cas ici c'est d'avoir des enfants, parce que c'est pas le matériel, c'est, alors c'est très matériel, tu vois, vous allez me dire, mais bon, parce que c'est le fait d'avoir des enfants ici qui va pas le propulser dans une bénédiction, une faveur de Dieu comme on peut l'entendre. Bon, c'est bien, vous êtes à peu près clair sur le questionnement. Et du coup, pourquoi cette vision de la bénédiction peut-elle troubler le croyant? Parce que forcément, nous sommes influencés par le monde. Et ce monde-là, du coup, va présenter le matériel uniquement comme bénédiction. Et forcément que du coup, nous, quand on ne vit pas ça et qu'on vit l'épreuve, vous avez tous bien dit, hein, du coup, le chrétien, il est dans l'épreuve, il est quand même, il peut être quand même béni. Et Marlène l'a dit, ça peut être ici-bas ou là-haut, parce que ce n'était pas du coup au bien matériel que l'on peut avoir ici. Il y en a certains qui n'auront rien. Mais le chrétien est appelé béni, mais vu que forcément on vit dans ce monde et que ce monde pense différemment, dans nos épreuves, on vit les choses de manière plus difficile et plus dure. J'ai cité sur l'un groupe, hein, l'exemple des chrétiens des premiers siècles. Les chrétiens des premiers siècles avaient saisi la notion de bénédiction selon Dieu. Et on va y arriver, hein, parce que là, petit à petit, on donne des mots, présence de Dieu, ça en fait partie. Et en fait, ils vont être persécutés, ils vont mourir le martyr. Dévorés par les lions, brûlés et servant de lampes, hein, dans les rues de Rome. Et ces chrétiens-là, en fait, certains sont dans la crainte, dans la peur, forcément, mais en fait, lorsqu'ils sont condamnés, les historiens, les textes que l'on a, vont dire qu'ils vont y aller le cœur heureux. Certains se bousculent, et là je cite la citation, pour mourir pour la cause du Christ. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre, il va être condamné par la crucifixion. Le seul souci de Pierre, c'est quoi ? Me faites pas la même crucifixion que Jésus, moi je veux la tête en bas parce que je suis pas Jésus. Il cherche même pas à négocier. Il cherche juste à négocier comment il doit mourir. Et Paul va dire que finalement, ces hommes-là ont compris, ces hommes et ces femmes ont compris finalement c'est quoi ? Ils sont bénis par Dieu, comme finalement Jésus a été béni. Jésus, durant sa vie, c'est loin d'être l'exemple de bénédiction que le monde prend pour exemple. Il n'avait pas de lieu où reposer la tête, voilà, c'est une vie quand même assez restreinte. Et pourtant, Jésus, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été béni. Du coup, il y a autre chose là, qui se met en avant sur la présence de Dieu, mais aussi sur autre chose. Est-ce que ça va ? Le autre chose, Marlène l'a un peu dit, en fait, c'est prendre de la hauteur. Ces chrétiens, je parle des premiers siècles, on en parle encore aujourd'hui. Et ils bénissent, nous, chrétiens, 2025-2026, parce que, du coup, par leur vie, c'est un témoignage fort de ce que c'est la confiance en Dieu. Et du coup, leur vie qui a été bénie il y a 2000 ans, eux, ils n'ont pas pensé à nous, hein, mais du coup, a une répercussion forte. Et elle bénit, du coup, les chrétiens d'aujourd'hui qui peuvent vivre des choses plus ou moins difficiles. Et du coup, ici, c'est prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur, des choses même qu'on ne peut pas imaginer, mais où Dieu, quelque part, fait avec. D'ailleurs, ces chrétiens-là auront tellement d'impact, hein, parce que le pouvoir romain ne va pas comprendre pourquoi même ces chrétiens se bousculent pour mourir, que quelques siècles après, l'Empire romain va chuter dans le sens qu'il va devenir chrétien. Alors, voilà, avec des dérives qu'il y aura aussi, mais l'Empire romain, qui était un empire païen, va prendre du coup la foi chrétienne qu'il a combattue, et ça c'est pas par les armes, c'est par le témoignage fort de la mort, du sang ici, des martyrs chrétiens. Et là on peut pas dire que c'est pas une bénédiction. Est-ce que ça va ? Allez, deux dernières questions, et puis on conclura, on m'a donné une vraie définition. Est-ce que tu peux passer, Gwendoline ? Je crois qu'en plus j'ai mis une synthèse. Alors, juste avant, peut-être. Ouais, voilà. Donc, la question 2, donc c'est oui par rapport à l'opposition et les béatitudes, donc c'est le passage de Jésus ici, montre que la bénédiction vient de la relation avec Dieu, mais pas du confort ou de la réussite qui peuvent en faire partie, mais ce n'est pas ici le critère principal. Et troisième. Ce qui peut nous troubler sinon, c'est de voir les méchants prospérer ou souffrir malgré l'obéissance, ce qui peut faire douter de la fidélité ici de Dieu. Parce que forcément, on ne vit pas reclus, on vit dans un monde qui est tel quel, et nous sommes humains. Il faut rester terre à terre, nous restons humains, et que du coup, forcément, que ça nous titille, ça nous bouscule, ça nous fait poser des questions, et on a raison. Job, je prends l'exemple de Job, il va poser des questions à Dieu. Il va dire pourquoi ? Et Job se réfugie pas dans disant « Allez, je suis béni » et il s'enferme dans un déni de ce qu'il vit ou de ce qu'il ressent. Il crie à Dieu. Et Dieu donne une réponse d'ailleurs qui est un peu hors sujet puisqu'il donne pas de réponse. Il dit qu'il est souverain. Un peu ce que disait Marlène, c'est Job n'est pas Dieu. Il maîtrise pas finalement tout le plan de Dieu. Et Dieu, lui, est souverain. On passe par la suite. Alors, questions 4 et 5. Du coup, allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant, là, c'est qu'est-ce qui distingue une vie réussie aux yeux du monde, une vie véritablement bénie selon Dieu. Imaginons que quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas chrétien vous pose la question, du coup, c'est quoi la différence entre moi et toi ? Qu'est-ce que vous donnez concrètement ? Quelle est la réponse ? Vous l'avez un peu dit, hein, mais du coup, là, c'est mettre des termes. Et cinquième question, qui la Bible présente-t-elle comme réellement béni alors que le monde ne l'aurait pas reconnu comme tel ? Et d'exemples, il y en a plein. Voilà, je vous laisse réfléchir dessus, puis on conclura après. Voilà, je vous propose de faire un dernier point ensemble. Alors sur la quatrième question, qu'est-ce qui distingue une vie réussie aux yeux du monde d'une vie visée véritablement bénie selon Dieu? Alors là, on arrive du coup à une vraie bénédiction. Si quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas chrétien, vous dit « Moi, la bénédiction, pour moi, c'est avoir la santé, avoir le matériel, avoir des enfants, voilà, plein de choses matérielles », quelle est la définition que nous, chrétiens, on peut apporter? Est-ce que vous avez des réponses? Allez, sentez-vous libre. Ceux qui n'y ont pas parlé, vous pouvez lever la main. Ah, Phyllis! Alors, attends, peut-être Phyllis avant. Non, attends, Phyllis.
Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Voilà, je pense que ce qui distingue, nous avons parlé nous-mêmes, pour nous, une vie véritablement bénie selon Dieu, c'est notre relation avec Dieu.
Tout à fait.
Voilà.
C'est juste autre chose?
On va être très cheesy. Ouais. On a une chanson en anglais qui éclate aux États-Unis. Ça a gagné des prix et tout ça. You're going to sing it with me? OK, pardon. Les chansons, c'est comme ça. C'est « je suis béni ». Parce que j'ai toi, je suis béni. Je m'en fiche de tout le reste. J'ai toi, je suis béni. Et dit, sur mon journée la plus pourrie, je suis un enfant de Dieu. Sur mon journée la plus joyeuse, je suis un enfant de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça la chanson. On va chanter.
Tu l'as chanté, hein, Géna.
Oui, c'est ça. OK. Je suis continue.
I'm so blessed, I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. Lord, it doesn't matter about the rest, if I got you, Lord, I'm so blessed. On my worst day, I'm a child of God. On my best day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed, I'm so blessed. God, this heartbeat in my chest. Lord, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed.
Des réponses en chantant. Quelqu'un d'autre veut chanter? Autre chose?
Ouais, nous, on a dit un peu, on a parlé de la relation avec Dieu et du coup, le fruit de l'esprit.
Oui.
Du coup, de par la relation avec Dieu, découle des fruits de l'esprit qui, du coup, peuvent être... comme on dit, attirant pour les autres. Et les autres se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec elle ou lui? Voilà, en gros...
Est-ce que tu peux citer, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi, du coup, le fruit de l'esprit?
L'amour...
Si tu n'as pas tous les éléments, ce n'est pas grave, mais...
Là, c'est question... l'amour, la joie, la paix, la patience,
ouais,
la tempérance...
Maîtrise de soi...
La maîtrise de soi, la fidélité, merci, vite, la montée, voilà.
C'est ça. Autre chose?
C'est la carte passe.
Bon, c'est bien, vous avez bien défini, du coup, ce que c'est la bénédiction.
Amour.
Oui, il y a Gilles.
Ça va dans le même sens que ce qui a été dit un petit peu. C'est la vie de quelqu'un qui est dans le monde, c'est une vie selon les attentes du monde. Et nous, notre bénédiction, elle dépasse, elle transcende ce qui vient du monde, c'est notre bénédiction en Christ, c'est une vie selon Dieu et non selon le monde.
Tout à fait.
Après, c'est un raccourci, mais...
C'est juste. Hein,
c'est une vision d'en haut.
Vous avez tout bien répondu. Est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être une dernière personne? Ouais, Yao. Après, il y a Yao, après. Allez, Laïna.
Alors, on a dit la même chose. Une vie... béni selon Dieu, selon nous, c'est une vie avec lui, remplie de sa présence, dans l'obéissance à Dieu, une relation continue avec lui. Quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances de la vie, une confiance absolue, une dépendance à lui parce qu'il est souverain. Et la différence avec les personnes qui n'ont pas Dieu, c'est la manifestation du fruit de l'esprit dans l'épreuve. Une personne qui a Dieu, quand il est dans l'épreuve, il a l'espérance. parce que c'est notre identité qui nous confirme que nous avons la vie éternelle, notre espérance est en lui.
Tout à fait. Lydiane ?
Je voulais juste répéter un peu ce que vous nous avez appris concernant la différence aussi entre le fait qu'on a une destination et que en fait on vient en tant que pardonné. Donc ça fait une énorme différence parce qu'il n'y a pas cette culpabilité ou cette on a dit tout en anglais, alors c'est comment on dit cette pitié de soi-même, cette culpabilité qui te ravage de l'intérieur. On sait qu'on est pardonné et que ça peut nous rapprocher de Dieu et que finalement cette destination et ça change le voyage et que ça le voyage est beaucoup plus connecté et joyeux parce qu'on a cet espoir que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu.
Tout à fait. Alors pour synthétiser, vous avez tout dit, hein, c'est des bonnes réponses tout ça. J'essaie de définir de manière courte. Quand on parle à quelqu'un, c'est bien de définir de manière courte. C'est juste ce que vous avez dit. J'essaie de réfléchir et j'ai trouvé cette réponse à apporter. Le monde mesure la vie par ce qu'elle produit. Ce qu'elle produit et du coup, ça peut être le bien matériel, plein de choses. Et Dieu la mesure par ce qu'elle devient. C'est l'être. Et notre vie, en fait, ici-bas, ne s'arrête pas à ici-bas. C'est quelque part comment on chemine avec Dieu. C'est ce que vous avez dit, notre relation à Dieu, notre dépendance à Dieu. Et ce verset, hein, Jésus, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est de l'âme dont il est question. C'est notre éternité quelque part lointain. Et Jésus va opposer ici le gain visible de la perte invisible mais éternelle. Si on définit la bénédiction selon le monde, que par le matériel, il y a aussi une perte ici qui est l'âme. Une perte invisible que personne ne voit, mais qui à la fin, c'est la seule chose qui reste. Là où on va, on n'emporte rien. Bon, je fais pas mal d'enterrements, c'est partie du job, j'ai envie de dire. J'ai jamais vu quelqu'un, alors des fois certains mettent des choses dans le cercueil, hein, mais ça reste en terre. Hein. C'est la personne, et c'est ce qu'il y a de plus tragique et aussi de. Enfin, j'ai envie de beau avec la mort, mais c'est que peu importe la personne, ce qu'elle a vécu, on finit tous pareil. Et on finit, c'est notre vie. Qu'est-ce que finalement on a fait de notre vie? Pas juste ici-bas, hein, parce que dans le monde, certains vont dire, hein, je fais le maximum ici-bas et j'essaie de mieux vivre, et puis après, bah tant pis, c'est fini. C'est quelque part pour l'au-delà, quoi. L'espérance chrétienne, quelqu'un l'a dit, c'est l'espérance chrétienne. Je prends l'exemple de Paul. Paul, il va dire ce passage que vous connaissez. Paul, c'est un apôtre qu'on pourrait dire, Dieu se sert de lui, il a été béni, il a béni les peuples. Et pourtant, Paul, il dit ce passage, mais ce qui était pour moi un gain, son titre d'apôtre, le fait qu'il ait pu guérir des gens ou autres, créer des églises, il va dire, tout cela, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte, à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout, il dit bien tout, hein, tout, et le terme est fort, terme grec, tout comme des ordures. Afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Paul ici écrit aux Philippiens, et il est dit, alors voilà, on n'a pas de certitude, que Paul, il écrit de sa cellule un peu à ce moment-là, et du coup ça passe par les gardiens romains. Et que le gardien romain, en lisant ce passage, il comprend pas ce qui se passe, et il va donner sa vie à Dieu, et il va être un des évangélistes dans la ville de Rome après. Parce qu'il se dit, cet homme-là qui est emprisonné, il a les chaînes aux pieds, il va mourir, Paul sait qu'il va mourir. Et on est à la fin de sa vie, finalement, il balaye tout d'un revers de main. Les Romains savent que Paul est connu. Et Paul se base pas sur ce qu'il a pu faire de spirituel. Hein, et de que Dieu a fait, et Dieu a fait avec lui, et il l'a béni. Mais même ça, il considère, c'est fort. Hein, le fait d'avoir créé des églises comme des ordures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il méprise cela, hein, c'est pas ça. Mais comparé à la relation à Dieu, c'est des ordures. Paul n'emploie pas des termes au hasard. Et ça montre ici que la bénédiction, finalement, du chrétien, c'est sa relation à Dieu. Quand tout va bien, et moi je vous souhaite que tout aille bien, il ne faut pas non plus souhaiter que tout va mal, mais aussi quand les épreuves sont là, quelque part nous sommes bénis. Et c'est se rappeler cela, même si le monde pense que on n'est pas bénis, dans l'épreuve que nous pouvons traverser, nous sommes bénis. Dernière question, du coup, qui la Bible présente-t-elle comme réellement béni, alors que le monde ne l'aurait pas reconnu comme tel? Est-ce que vous avez des exemples? Il y a plein d'exemples, hein, là, du coup. Jésus, c'est bien, c'est le meilleur exemple. Jésus, il n'a pas une vie où on donne envie. Si on vous présente la vie de Jésus en disant, on vous donne 3 ans à vivre, vous mourrez à 33 ans crucifié, et puis votre vie pendant les 3 ans, c'est pas que de la joie, hein. Vous êtes insulté par les chefs religieux, tout seul, bien souvent. Vous n'avez pas de maison, vous dormez là où vous vous trouvez, où vous pouvez vous dormir. Vous avez faim, vous avez soif. C'est ça la vie de Jésus. Hein. Et je pense que c'est difficile à signer ça. Mais c'est ça, être béni. Pourtant, Jésus, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été béni. Autre exemple ? Job. Effectivement, la vie de Job, même si à la fin, ça se termine bien, il vit quand même une grosse partie de sa vie, on estime 30 ans. Ça a duré 30 ans, entre le fait qu'il ait perdu ses enfants, sa femme, sa maison. 30 ans de silence, où il questionne Dieu. Au début, si vous lisez Job, il se dit, je veux faire confiance à Dieu. J'ai confiance à Dieu. Mais quand ça dure 30 ans, c'est dur. Et à la fin, Job, il est humain, il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi ? Autre exemple. Le roi David, alors dans quel sens du coup le roi David ? Joseph. C'est ça, Joseph vendu par ses frères en prison de manière injuste. Pourtant il va être béni. Alors Noé, moi je dirais pas forcément Noé, parce que Noé il est sauvé du déluge. Dans le monde actuel, si tu dis il y a un déluge et t'es le seul d'être sauvé, ça fait partie... C'est vrai, il a été moqué par les autres, mais les autres, ils sont morts. Tu vois, donc, à choisir, tu vois, la vie de Noé, bon, ça peut rentrer dans ce que le monde veut, tu vois. Autre exemple. Ah, merci. Allez-y, hein, je vous écoute.
Je veux pas dire.
Oui, Nathan, tu disais Jérémie, c'est ça ? Oui, le prophète Jérémie, qu'est-ce que tu peux dire du prophète Jérémie ? Ouais. Nathan disait qu'il y a tout un livre sur le prophète Jérémie, c'est Lamentation de Jérémie. Donc il y a le livre de Jérémie. C'est ça, il va pas se marier. Jérémie, il a une vie quand même assez, assez dure, il va être battu par le peuple, en plus, emprisonné, jeté dans une citerne. Et pourtant, Jérémie, Dieu va lui dire ceci. Avant, c'est Dieu qui va dire, avant que tu sois né, je t'ai consacré, je t'ai béni. Et Jérémie, il accepte ça. On se dit, waouh, c'est quoi cette vie ? Autre chose ?
Abraham,
alors dans quel sens Abraham ?
Mais le fait qu'il a quitté sa patrie et allé dans un pays où il ne connaissait pas.
Tout à fait. Abraham, c'est ça. Donc il est sans terre, il est sans enracinement, il vit sous la tente. Il est en voyage permanent. Et c'est parce qu'il possédait finalement, même si Dieu va le bénir hein, matériellement, mais c'est parce qu'il marchait par la foi. Ça fait partie de Hébreux 11, un homme ici de foi. Le monde dira de Abraham si on voit que c'est une vie instable. Pourtant, c'est une vie ici qui va être bénie. Autre chose ? Moïse ? Alors Moïse en quoi, du coup ? Alors, attends. Ouais. Bon, comme ça, tout le monde t'entend.
Moïse ? Parce que quand il y a eu le massacre des enfants, Dieu l'a béni puisqu'il l'a sauvé et il n'a jamais renoncé à qui il était, malgré les richesses.
Oui. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Après, pour le monde, tu vois, le fait qu'il ait été sauvé, c'est positif, tu vois. je pense que le monde prendrait. Peut-être que Moïse, on peut prendre l'autre partie de sa vie. C'est ça. Il va tuer. Alors là, c'est un péché que lui commet. Hein. C'est une conséquence de sa vie. Ouais, c'est vrai, on peut dire Moïse. Mais après, Moïse, tu vois, c'est entre les deux. Je pense que dans le monde, tu vois, c'est un leader, tu vois, pour le peuple. Dieu l'utilise puissamment. Ça peut faire envie. Hein. Tu vois, le monde pourrait dire, bah lui, non, ça va. Autre chose ?
Daniel et ses compagnons.
Daniel et ses compagnons. Ah, ouais, Daniel et ses compagnons, c'est dur. On lit le texte, ça a l'air joyeux, mais ils sont tout seuls, isolés de leur pays, un peu comme Abraham. Tout à fait.
Anne.
Anne. Ouais, alors explique peut-être. Anne.
Oui, Anne, qui n'a pas pu enfanter. Donc, ce qu'elle faisait tous les jours, c'est à prier, et finalement, Dieu lui a accordé un enfant.
C'est ça, mais tu vois, je ne prendrais pas Anne, du coup, parce qu'au final, matériellement, tu vois, il y a un enfant derrière, tu vois. Donc, pour le monde, tu vois, ça peut être un bon exemple, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été bénie, hein. Mais tu vois, au sens... Tu vois, la question, c'est par rapport à est-ce que le monde prendrait cet exemple-là, tu vois.
Ruth.
Ruth, ouais. Ruth, c'est un bon exemple. Oui, Marlène. Étienne. Ah, et là, on rentre dans des vrais exemples. Étienne, disciple de Jésus, il termine lapidé. Par Paul, d'ailleurs. Paul, il en fait partie, il jette la pierre. Et il termine... Bon, c'est une mort horrible, hein, la lapidation. J'ai jamais expérimenté, hein, mais j'imagine quand même. Et il meurt. Et quand il meurt, en fait, il... Est-ce que vous vous rappelez comment il meurt, Étienne ? C'est ça, mais il pleure pas quand il meurt, Étienne. Ouais, il est dans la louange à Dieu. Marie, exactement. Marie, c'est un bon exemple. Marie, même si aujourd'hui on se dit ça peut être positif, elle tombe enceinte dans une culture où être enceinte sans être mariée, c'est une catastrophe. Et Marie, elle a sans doute vécu beaucoup de moqueries, d'opposition. Et cette femme, alors le texte va le dire, elle a été bénie. Elle a été bénie. Alice ?
On peut dire que la femme adultère a été bénie parce qu'elle n'a pas été accusée par Jésus.
Tout à fait.
Et est-ce qu'on peut dire que les lépreux aussi, qui ont suivi Jésus,
ont été... Mais bon, la femme adultère, je pense que... Ouais, on peut dire oui. Alors, les lépreux, si tu veux, je pense que pour le monde, les lépreux, ils prennent. Ils vont dire, bah, Dieu guérit. Et c'est vrai, hein. Mais tu vois, le monde, ça rentrerait dans ce aussi, ce que le monde pense. Et c'est pas mauvais, hein. Mais là, c'est vraiment des définitions comme Étienne. Hein. Étienne, là, c'est... Et les exemples que vous avez cités, hein, c'est pareil, Abraham. Alors j'ai mis quelques exemples. Aussi, c'est bien, vous avez mis des exemples que moi j'ai pas mis. Voilà, la liste est longue. Hein. Il y a Élie qui est seul, il est découragé, il est pourchassé. Oui. Il y a les apôtres, les 12. Je le cite souvent, les 12 apôtres terminent en martyr. Tous morts, sauf Jean, exilé, mais bon, c'est pas une vie ça. Et du coup, voilà. Et puis, il y a aussi Paul, même si du coup, Paul, sa vie à Paul, elle est quand même difficile. Hein. Il subit plusieurs fois la persécution, plusieurs fois fouetté, donc c'est 40 coups de fouet moins un, emprisonné, c'est une vie difficile qu'il a. Et puis, il meurt le martyr, Paul. Et puis, il y a, j'ai mis ça quand même, tous les croyants anonymes à travers l'histoire. Tous les croyants anonymes qui ont souffert la persécution, le martyr, qui souffrent encore aujourd'hui. Que ce soit ailleurs, à l'étranger, très loin, mais aussi en France. En France, la persécution, elle n'est pas aussi violente que dans d'autres pays, mais elle peut l'être. Quand quelqu'un devient chrétien dans une famille, il peut être isolé. Parce que c'est pas bien vu. Il peut être, du coup, c'est une persécution douce, mais une persécution quand même. Ça peut être aussi au milieu du travail, alors même si normalement ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, ou du coup, quelque part, le chrétien, s'il agit normalement comme il est, il peut être moqué pour ce qu'il est, comment il agit, comment il fait. Et là, ça nous rejoint nous. Des fois, on prend des exemples extrêmes à l'autre bout du monde, c'est vrai. Pour nous, chrétiens aussi, nous pouvons vivre une sorte de voilà, une persécution, et pourtant, Dieu nous appelle bénis. Est-ce que ça va ? Bon bah super, on a fait le tour ce matin. Est-ce que c'est clair ce matin ? Donc j'ai synthétisé, tu peux mettre peut-être, j'ai mis une synthèse, voilà, histoire que la bénédiction selon la Bible du coup ne se réduit pas à la richesse. Vous constatez que j'ai pas mis, ce n'est pas la richesse. La richesse en peut en faire partie, parce que c'est aussi un marqueur de la bénédiction de Dieu. Mais elle ne se limite pas qu'à ça, aux santé ou au confort. Être béni, c'est avant tout marcher avec Dieu. Dans cette marche, il peut y avoir de tout. Mais Dieu est là. et expérimenter du coup sa fidélité, être transformé intérieurement, même si Dieu peut aussi nous accorder des biens matériels, la santé ou le confort, ou pas. Finalement, c'est la marche avec Dieu ici qui prime, et Dieu peut faire après. Mais dans tous les cas, dans la vie du chrétien, Marlène l'a très bien dit, le chrétien est capable de prendre de la hauteur parce que du coup, le Christ lui-même nous donne cette espérance qui ne se limite pas qu'à ici-bas, mais bien au-delà. Donc, et c'est peut-être nous, notre espérance à nous chrétiens, quand on a du mal à dire là, je suis béni, de se dire finalement que ma relation à Dieu prime. Seigneur, je suis là avec toi, à toi je peux tout te dire. Job va crier sa colère à Dieu, David aussi va le faire. Dans le psaume 73, le psalmiste, il crie son incompréhension à Dieu, mais c'est avec Dieu qu'il la crie. Et Dieu derrière répond. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on puisse conclure et prier? Oui, Juliette.
Grec ou hébreu de ce mot béni.
Alors c'est une bonne question. Alors j'ai pas regardé dans le détail puisqu'en fait t'as deux termes. T'as le grec en grec et en hébreu. Donc en fait si tu veux c'est le terme en grec. En grec je peux te dire. En hébreu il faudrait que je vérifie. Je vais pas te dire n'importe quoi. En grec si tu veux le sens littéral c'est bon. C'est bon. C'est le terme béni est lié au terme bon d'ailleurs. Donc et du coup ici c'est la bonté. Mais la bonté tu vois c'est très large. Qu'est-ce qu'on définit comme bon, tu vois? Donc, et la bonté de Dieu, du coup, c'est finalement, c'est être avec lui. Si Dieu est avec nous, sa bonté est présente. Même si le monde, du coup, pense différemment, celui où Dieu est là.
Mais je pense qu'on peut rajouter bénédiction, diction. Ouais. Ça veut dire parler.
Parole. Il y a la parole.
Et en grec, c'est eulogos, donc ouais, parler le bien.
Ouais.
Et c'est quelque chose de bien que Dieu il dit sur notre vie et que nous proclamons aussi après.
C'est ça, tout à fait. Et du coup, peut-être que c'est une des questions que tu voulais poser, parce que tu me l'avais posé tout à l'heure. Dans la Bible, on dit aussi qu'on bénit Dieu. Bénir Dieu, du coup, c'est les deux termes, bénédiction, c'est le terme bon et parole, et en fait, c'est dire du bien. Nous, en tant que chrétiens, du coup, ça fait partie de la même définition, mais c'est encore un peu différent de ça. Quand on bénit les autres, en fait, on dit du bien d'eux. Et du coup, en disant du bien d'eux, quelque part, c'est positif. Oui.
Pour moi, ça va plus loin que ça. Quand je bénis quelqu'un, c'est pas forcément de dire « ce gars-là, il est formidable », mais je dis une parole bonne pour lui. Je déclare le nom de Jésus, je déclare la paix de ouais. Jésus sur cette personne, je déclare ouais. la justice ou la santé ou n'importe quoi.
Ouais.
Ça va beaucoup, beaucoup plus loin.
Tout à fait. Ouais, ça rentre dans tout ça. Ça rentre dans tout ça. Mais là, on rentre sur un autre sujet déjà, mais qui est en lien, hein. Tout est lié de toute façon. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Après, on pourrait même faire une immersion dessus. Du coup, avec la bénédiction que l'on dit, en fait, il y a toujours une influence du monde. Hein, et c'est pour ça que c'est intéressant de bien poser le cadre. Parce que tout ce que je dis, c'est juste, hein, Marlène. Maintenant, il y a tout ce qui est la pensée positive, qui est quelque chose du monde. Hein, c'est-à-dire, la pensée positive, c'est je dis du bien ou je pense bien. Et du coup, comme ça, le mal ne m'atteint pas. Ça, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas Dieu. C'est-à-dire qu'on peut dire du bien, mais c'est pas la méthode couée. C'est-à-dire que c'est pas en disant... Je prends un exemple. Un exemple parce que mes parents étaient un peu comme ça, alors ils ont évolué, je vais dire ça comme ça, ou quelque part par exemple, ils étaient jeunes dans la foi, donc voilà, c'était aussi ça. Quand on était malade, moi je me rappelle des fois quand j'étais malade, plus jeune, enfant, mes parents, et quand je disais je suis malade, mes parents disaient ne dis pas ça. Dis que tu es guéri, dis que... Et là c'est la pensée positive. C'est-à-dire que leur pensée, c'est oui d'être bien, mais en fait, qui ils sont pour c'est Dieu qui décide. Il ne s'agit pas de nier ici une réalité. La pensée positive du monde, c'est justement de dire de bien pour entrer. C'est le mindset. Hein. Mais là, tout ça, c'est des choses que dans la Bible, c'est pas présent. Dieu est au-dessus de nous-mêmes. Nous ne sommes pas Dieu. Et il ne s'agit pas nos paroles que nous disons. Peut avoir une conséquence, mais en fait nous ne sommes pas Dieu. Si je dis je suis malade, je suis malade. Ça ne veut pas dire pour autant que je resterai malade, et que si je reste malade, c'est parce que j'ai dit que je suis malade. Est-ce que vous voyez un petit peu ou pas? Maintenant, il ne s'agit pas non plus, et là ça rentre dans ce que Marlène dit, de se morfondre. Il y a un équilibre ici à trouver. Donc, et le chrétien, justement, s'il sait qu'il est béni, c'est aller au-delà de tout ce qu'il peut vivre. Mais bon, là on rentre dans un autre sujet. Sauf si vous avez du temps cet après-midi, hein, mais bon. Moi, j'en ai pas trop, là. Donc, je vous propose peut-être de prier, à moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres remarques. Bon, ben super, c'était assez clair. On se remet dans les mains du Seigneur. Peut-être Marlène, tu veux nous remettre dans les mains du Seigneur ?
Seigneur, nous te remercions pour cette matinée très riche d'échanges, Seigneur, de nous pencher sur ta parole, sur comment toi tu vois notre vie, comment toi tu évalues. Et Seigneur, nous déclarons tous ensemble, Seigneur, que nous plaçons notre confiance en toi. Parce que, quelles que soient nos circonstances de vie, c'est toi qui as le projet parfait pour notre vie. C'est toi qui as les solutions pour notre vie. C'est toi qui sais comment nous refaçonner. Tu es le potier, Seigneur, de réarranger notre vie. Tu es l'artiste, celui qui fait une belle mosaïque, qui prend les choses brisées et qui refait quelque chose de bien de nos échecs, de nos difficultés. Notre confiance, nous la mettons en toi, parce que tu es le bon berger et que tu prends soin de nous, parce que tu as un projet ici sur terre pour ton royaume dont nous faisons partie. Amen.
Voilà, bon dimanche à chacun. Peut-être on peut remercier, je sais qu'elle va être gênée, on peut remercier Marie-Annick qui a pu installer les tables. Merci Marie-Annick. Du coup, peut-être avant de partir, ce que je peux vous demander, c'est de pouvoir aider du coup à débarrasser les tables, à remettre les chaises. Ça permettra que la semaine prochaine, tout soit prêt. Merci à vous.